Jésus, toi qui es assis sur le trône, parce que tu as sauvé, parce que tu as racheté, parce que tu as délivré, nous te donnons en ce matin toute la gloire. Et nous prions, Père, afin que tu descendes encore en ce lieu en ce matin, prendre le total contrôle de ces moments. Que tout ce qui ne glorifie pas ton nom en ce lieu, en ce matin, se taise dans le nom puissant de Jésus, afin qu'à toi seul revienne honneur, gloire et majesté pendant ce culte. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonjour, bien-aimés. Le texte qui fait l'objet de notre méditation ce matin est tiré dans le livre de Josué, chapitre 5, du verset 9 au verset 12. Josué, chapitre 5, 9 à 12. Il a pour thème « Entre dans ta destinée ». Le prédicateur, c'est le révérend docteur Moussunga Aimé. La lecture nous sera faite par la diaconesse Flore.
L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangeaient des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen.
Alléluia. Il y a une tristesse dans la salle. Alléluia. C'est comme ça qu'on répond. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Alors si ce matin il y a quelque chose qui t'a troublé en venant ici, que ça reste là-bas. Et que la joie de l'Éternel soit ta force au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bénissons, Père de bonté, encore ce matin. Merci pour ta grâce qui nous inonde. Ouvre nos cœurs afin que ta parole imprègne au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes dans le thème de la destinée. Dis à ton frère, entre dans ta destinée. Le peuple d'Israël se forme en Égypte avec l'arrivée de Jacob. Vous connaissez l'histoire? Quand Dieu change le nom de Jacob en Israël. Et Joseph prend son père et le présente à Pharaon. Le nom que Pharaon garde, c'est le nom d'Israël. C'est son nouveau nom. Et les enfants de Jacob, donc d'Israël, se multiplient. Ils se forment un peuple. Et on appelle les enfants d'Israël. Mais ce peuple va vivre dans l'opprobre, dans la souffrance et dans la misère. Ce n'était pas ça leur destinée. Dieu avait dit à Abraham, quand il était à Canaan, « Je donnerai à ta postérité cette terre. Elle t'appartient ainsi qu'à ta postérité. » Donc leur destinée était dans la terre promise. Mais là, ils se retrouvent esclaves chez Pharaon. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que la destinée en fait? On peut avoir plusieurs définitions, mais de façon brève. La destinée, c'est là où Dieu t'a appelé à être, afin que sa gloire rayonne sur toi. Là où Dieu veut que tu sois, pour que sa gloire rayonne, ce n'est pas toi qui rayonne. C'est Dieu qui rayonne en toi, afin que le témoignage qui découle de ta vie puisse impacter les autres. Donc, quand tu entres dans ta destinée, sois humble. Sois humble devant Dieu. Il est écrit, quand nous lisons dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'avenir et l'espérance ici constituent la destinée où Dieu est en train de me mener. Alors à l'église, il y avait un jeune qui priait beaucoup. Et à un moment dans sa prière, Dieu lui donne une vision où il se voit élevé dans une grande entreprise. Il dit, oh, gloire à Dieu, Dieu m'a vraiment élevé. Dieu lui dit, va déposer ton dossier là-bas. Il est parti déposer son dossier, on l'a pris et Dieu l'a élevé. Mais Dieu lui dit, attention, je t'ai élevé ici dans cette société afin que tu prêches ma parole pour convertir ceux qui sont dans cette société. Bien sûr, il bénéficie les avantages et les bénédictions de la destinée. Il a un grand poste, il a des voitures, il a ceci, c'est vrai. Mais le but était de prêcher la parole. Et il a commencé à prêcher la parole au directeur et cette société est devenue une société chrétienne. Je crois que vous comprenez que ce qu'est la destinée. C'est pour que Dieu se glorifie en nous. Alors, entre ce que Dieu te montre dans une vision, un songe, où il te dit, et l'entrée dans la destinée, il y a un chemin à parcourir et des étapes à traverser. C'est ce que nous allons voir ce matin avec le peuple d'Israël. Ce peuple, comme nous venons de lire, est donc à l'entrée de Canaan. Donc nous laissons la partie du désert. Ils sont maintenant à l'entrée de Canaan. Qu'est-ce qui se passe? Verset 3 du chapitre 5. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Il circoncit, nous devons comprendre, toute la génération qui est sortie d'Égypte pour aller à Canaan avait murmuré devant Dieu. Et Dieu a exterminé dans le désert parce qu'il a dit, vous avez dit quoi? C'est mieux qu'on meure, vous allez mourir. Ils sont tous morts. Maintenant, les enfants qui sont nés dans le désert, c'est eux qui vont prendre possession de la destinée. Donc, il faut faire attention. Si tu murmures, tu vas mourir dans le désert. Tes enfants vont entrer dans la destinée, mais pas toi. Alors, mais ces enfants n'étaient pas circoncis. Il fallait donc les circoncire pour qu'ils entrent dans l'alliance afin d'entrer dans la destinée. Ici, l'incirconcision représente le péché. Le fait de se circoncire, c'est ôter le péché dans sa vie. On ne peut pas entrer dans la destinée dans le péché. C'est impossible. Dieu ne peut pas ouvrir la porte. Comment je vis dans le mensonge? Je vis dans le vol. Je vis dans l'impudicité, la fornication, l'adultère. Je vis dans le Congossa et autres morts de péché. Et je veux entrer dans ma destinée. Beaucoup sont restés à l'entrée de leur destinée. Ils ne sont pas entrés à cause du péché. Ôte d'abord le péché dans ta vie. Circoncis-toi. La circoncision fait très mal, surtout le troisième jour. Mais il faut passer par cette douleur-là afin d'entrer dans la destinée. Donc il y aura des douleurs. Ôte seulement le péché et Dieu va ouvrir la porte pour que tu entres pleinement dans ta destinée. Alors Dieu dit, j'ai mis une porte ouverte devant toi et personne ne peut le fermer. Cette porte-là, c'est la destinée. Oui, alors, nous connaissons l'histoire d'Adam et Ève. Voilà les personnes qui sont sorties de la destinée à cause du péché. Ils sont dans le jardin d'Éden, là où il y a toute la perfection. Le diable vient. Et voyez comment le diable agit. Il faut connaître la stratégie de Satan. Satan crée le doute. Je reviens sur Jésus. Il dit à Jésus, es-tu réellement le Fils de Dieu? Mais il savait que Jésus est le Fils de Dieu. C'est la même chose qu'il va dire aussi à Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? Ève dit non. Dieu a dit que les autres arbres, on peut manger. Mais celui-ci, on ne mange pas. Et le diable, là, il entre la conversation.
il commence à dire à Ève, « Oh, mais regarde l'arbre, regarde le fruit, il est magnifique, il est juteux, il y a la chair, faut manger ce fruit parce que vos yeux vont s'ouvrir, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Et Ève va manger le fruit ainsi que son mari, ils sont chassés de leur destinée. Fais attention, le péché peut te faire sortir de ta destinée. Je m'adresse à mes jeunes sœurs, à mes jeunes frères, même aussi aux adultes. Faites attention à la conversation. Entre Ève et Satan, tout est parti d'une simple conversation. Mais ils se sont retrouvés à être chassés. Il y a des conversations qui ne font jamais amorcer. Parce que le jeune qui est devant toi, il parle très bien. Il va te dire des paroles, tu es belle, tu te retrouves dans l'impudicité. Comme la femme qui est devant toi. Donc, évitez certaines conversations dans nos vies pour entrer pleinement dans la destinée. Le péché ne peut pas entrer dans la destinée. Et quand ils se sont fait circoncis, en ce moment-là, nous allons suivre les étapes. La première étape, ôte le péché dans ta vie, fais-toi circoncis. Dès qu'ils se sont fait circoncis, le verset 9 dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Est-ce qu'on peut lire ensemble ce verset? C'est important. Nous allons lire ensemble. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal. Alléluia. Quand ils ont ôté le péché, Dieu a parlé. Quand nous ôtons le péché dans notre vie, Dieu nous parle. Et il fait quoi? Il donne une promesse. Il fait une déclaration. Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. C'est fini. La question, c'est qu'est-ce que l'opprobre? L'opprobre, c'est une grande honte ou une honte extrême et publique, le déshonneur. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans le déshonneur. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la honte publique. Quand je vois ma famille, je vois ma vie, je vois beaucoup de choses. Mais Dieu te dit ce matin, aujourd'hui, j'ai roulé cet opprobre dans ta vie au nom de Jésus. Il a roulé ce Dieu-là, l'opprobre. Alors on va essayer de voir. La Bible nous parle de certaines personnes qui ont été dans l'opprobre. Je commence d'abord par Rahab. Rahab, c'est une prostituée professionnelle. Les enfants d'Israël sont d'abord dans le désert. Et depuis le désert là-bas, ils sont au courant qu'à l'entrée de Jéricho, il y a une prostituée qui s'appelle Rahab. C'est pour cela que Josué va envoyer les deux espions chez une prostituée. La honte! Est-ce que ce matin, tu es dans l'opprobre de la position? Deuxième personne, Anne. Anne était dans l'opprobre de la stérilité. Sa coépouse la mortifiait. Oh, mais tu n'as pas d'enfant. Tu fais quoi dans ce mariage? Faut partir. Tu manges l'argent de mon mari. Quitte. Et elle était dans la confusion. Est-ce que ce matin aussi, tu es dans l'opprobre de la stérilité? La Bible nous parle de Bartimée. Bartimée était dans l'opprobre du chômage. Il était assis au bord de la route. La poussière était là. Les gens le méprisaient. Est-ce que ce matin aussi, tu es dans l'opprobre du chômage? Tu n'as même pas de parole. Quand on veut régler les affaires de la famille, par exemple, il y a un mariage, je me rappelle de ce frère. Quand il veut parler, les autres lui disent, tu parles quoi? Ici, c'est l'argent qui parle. Donne à l'autre ta part avant de parler. Mais il n'avait pas d'argent. Quand c'est un deuil, on dit, tu parles quoi? Il faut acheter le cercueil, mets à l'autre ton argent ici-là. Mais il ne veut pas d'argent. Est-ce que ce matin, tu es dans l'opprobre du chômage? Dernière chose, c'est l'opprobre de la diffamation. Joseph était ce jeune-là. Son problème était sa beauté. La beauté peut te créer des problèmes. Hein? Parce qu'il est écrit de Joseph qu'il était beau de figure et de taille. Donc c'était un mannequin et très beau de figure. À cause de sa beauté, la femme de son chef
va tomber follement amoureuse de lui et veut coucher avec lui. Mais comme il y avait la crainte de Dieu dans son cœur, il va fuir. Cette femme va donc fomenter un coup contre Joseph. Quand son mari arrive, vous savez les femmes, hein, quand le mari, dès qu'elle commence à pleurer, là, le mari prend seulement les décisions. Je veux faire sans connaître ce qui s'est passé. Le pauvre, la diffamation tombe sur lui. Il a voulu me violer, il a fait ceci, jetez-le en prison. Est-ce que les gens ont dit des choses sur toi qui te blessent ce matin? Parce qu'on a dit que non, tu es rien, voilà, c'est un voleur, c'est un menteur, la diffamation que tu portes depuis les années. Maintenant, écoute ce matin. Quand le temps de Dieu est arrivé, il a roulé l'opprobre de toutes ces personnes. Alléluia. Saisis la grâce de Dieu au nom de Jésus. Rahab, qui était une prostituée, est entrée dans la généalogie de Jésus. Il y avait beaucoup de femmes en Israël. Mais on est parti prendre une étrangère, une prostituée, pour être dans la généalogie de qui? De Jésus. Ne t'en fais pas. Dieu va rouler l'opprobre au nom de Jésus. Nous avons vu encore Anne. Quand Dieu a roulé l'opprobre, Anne a accouché Samuel, qui est un grand serviteur de Dieu. C'est avec Samuel que commence le ministère prophétique. Il est aussi le dernier juge d'Israël. Et quand Dieu a enlevé l'opprobre de Joseph, il est parti de la prison à la gloire. Il a été élevé. Ce matin aussi, que Dieu agit dans ta vie au nom de Jésus. Saisis la promesse de Dieu. Alors nous allons par étapes. Il faut d'abord se faire circoncire, ôte le péché dans ta vie. Après, Dieu va te dire, j'ai roulé l'opprobre, il a enlevé. Maintenant, Dieu dit quoi? Nous sommes au verset 12. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Alléluia. La manne, c'est la nourriture du désert. Mais quand tu entres dans ta destinée, il faut manger la nourriture de la destinée. Il faut que la manne s'arrête au nom de Jésus. Nous devons entrer pleinement dans la destinée. Et ils ont mangé cette nourriture-là. Et quand ils ont mangé, la manne a cessé. Jusqu'à quand on va manger la manne? Il faut que nous entrons dans la destinée. Mais tout dépend de toi, de comment tu vas agir. Alors, quand ils ont mangé les bénédictions de la destinée, maintenant là, Dieu commence à parler. Il reste encore un mur qui doit tomber, c'est le mur de Jéricho. Donc, avant que tu entres dans ta destinée, il y a encore un dernier combat. Ils sont déjà à Canaan, mais il y a encore un dernier combat qu'il faut livrer pour prendre totalement possession de leur destinée. Oui, peut-être qu'il y a encore un mur devant toi. Les échecs dans les examens, les échecs dans une relation amoureuse, les échecs lorsque tu demandes le travail, les échecs quelque part. Mais écoute bien, ce matin, ce mur tombe au nom de Jésus pour que nous entrons dans la destinée pleinement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, pendant ce combat, nous allons lire ici le verset 14. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Jésus tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Pendant qu'ils sont en train de combattre, ils sont campés pour attaquer Jéricho, Dieu envoie un ange. Et quand Jésus regarde, dit, non, ça c'est un homme qui est différent. Es-tu des nôtres? Il dit avec autorité à Jésus, calme-toi, je viens du ciel. Je suis le général d'armée du ciel. Je m'appelle Michaël. Toi, tu es humain. Je ne sais pas si tu as compris ça. Ça veut dire qu'il y avait deux dimensions du combat. Il y avait la dimension spirituelle et la dimension physique. Pendant que tu es en train de combattre, là, le ciel aussi combat pour toi au nom de Jésus. Il y a deux dimensions. Les anges combattaient pour Israël. En même temps, sur le plan physique, Jésus avec son armée aussi combattait. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu ne peux pas voir. Ok, vous ne comprenez pas, je vais encore dire quelque chose. Regardez l'histoire d'Élisée. Élisée est assis chez lui et tout ce que le roi de Syrie est en train de dire, Dieu révèle à Élisée dans sa chambre. Et il dit au roi d'Israël, attention, les Syriens vont monter par Colbison, ils vont sortir vers Carrefour-Mec. Donc envoie les gens à l'entrée. Donc qu'ils ne pouvaient pas attaquer Israël. Et le roi a été déçu, il dit, mais ça se passe comment? Qui de vous là va me trahir là-bas? Parce qu'il était dans le secret. Ils disent, non roi, ce n'est pas nous. Là-bas, il y a un homme de Dieu, tout ce que tu dis là, il comprend. Ah bon? Il faut qu'on l'arrête. On a envoyé l'armée pour arrêter Élisée. Élisée était avec Géasi, son serviteur. Quand Géasi sort, il regarde l'armée de Syriens autour d'eux. Il dit à son maître, « Oh Seigneur, nous sommes finis, voilà l'armée. » Élisée était calme parce qu'il était dans le secret de Dieu. Il voyait ce qui est invisible. Il dit à Géasi, « Tu te trouves pour rien, oh Dieu. » Ouvre les yeux de Géasi pour qu'il voie ta gloire. Quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi, il a vu l'armée du ciel avec les chars de feu qui les entouraient. Alléluia. Donc sur le plan spirituel, Dieu combattait. Il faut que tu aies la foi. June Lewis était une femme qui est partie livrer les Bibles en Russie. C'était difficile, hein? La Russie, c'est un pays fermé. Et quand si on t'arrête avec une Bible, tu fais la prison à vie. Donc, on a le KGB a compris qu'il y avait une femme qui est entrée, on voulait l'arrêter. Elle a fui de nuit, oh Seigneur, dans une voiture, oh Seigneur, protège-moi, si on m'arrête. Dieu lui dit, oh, n'est-ce pas tu fais mon ministère, pourquoi tu as peur? Dieu lui dit, regarde. Quand elle regarde à côté de la voiture, il y avait un ange de haute stature avec une épée nue qui roulait à la même allure que la voiture. Et Dieu lui dit, est-ce que tu vois que je te protège? Elle a commencé à pleurer. Je ne savais pas, Seigneur. Toi aussi, Dieu te protège. Au nom de Jésus, il s'appelle Yahvé Sébaoth, l'Éternel des armées. Tu n'es pas seul. Ensuite, l'ange va dire à Josué, le verset 15, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Tu ne peux pas entrer dans la destinée avec ce péché-là. Ôte les souliers de tes pieds. C'est-à-dire, débarrasse-toi du péché. Là, je suis en train de parler à moi-même et à vous aussi. Jusqu'à quand ce péché va demeurer dans nos vies et vous appelez ça faiblesse. Ôte la faiblesse. Les blancs nous mentent. Oh, c'est mon péché mignon. Le péché n'est pas mignon, il est laid. Il faut ôter ce péché. Si tu veux entrer dans ta destinée, ôte le péché. Et il est écrit quoi? Et Josué obéit. Si Josué avait dit, je garde mes souliers, il n'entrera jamais dans la possession. Donc regarde bien ta vie. Quel est le péché qui t'empêche d'entrer dans ta possession? Oui, nous devons être du côté de Dieu dans la sanctification. Ensuite, quand l'ange vient combattre pour eux, l'ange est parti. Dieu voulait juste montrer à Josué que sur le plan spirituel, là, je combats. Voilà l'ange. Et puis il est parti. Quand l'ange est parti, c'est Dieu qui parle. Qu'est-ce que Dieu dit? Nous sommes ici dans la stratégie de Dieu afin de conquérir la destinée. Chapitre 6, verset 4. C'est pas là? Ok. Bon, je vais lire. Sept sacrificateurs porteront devant l'arche sept trompettes retentissantes. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront la trompette. Pour que tu entres dans ta destinée, tu dois suivre les directives de Dieu. Je vais récapituler. 1. Il faut ôter le péché dans ta vie, te faire circoncire. Et quand tu ôtes le péché, Dieu te donne une promesse, mais qui est une déclaration. J'ai roulé l'opprobre dans ta vie. Ensuite, Dieu te fait manger la nourriture de ta destinée. Et il te montre sur le plan spirituel qu'il est en train de combattre. Mais comme il combat, Dieu donne toujours les directives. Il peut te dire, prends 3 jours de jeûne et prière à sec. Il peut te dire, prends 1 semaine de prière, mais sans jeûne. Il peut te dire, loue seulement, ne fais pas de prière ceci. Il peut te dire beaucoup de choses. Suis maintenant les directives de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on comprend ici? Si nous lisons encore ce chapitre, on va remarquer qu'il est écrit, sept sacrificateurs, sept trompettes, 7 jours et le 7e jour, faire 7 fois le tour de la ville. Nous comprenons que le chiffre 7 revient. Or, dans la pensée juive, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire quoi? Pour que tu entres dans ta destinée, tu dois être dans la perfection, dans ta vie de prière.
la perfection dans ta louange. Moi, je ne comprends pas souvent. On loue, là, les gens sont assis, ils sont comme de marbre. Mais comment? Tu loues le Dieu des dieux, celui qui, il est écrit, l'Éternel siège au milieu de la louange de son peuple. C'est quand le peuple loue qu'il siège. Quand vous priez, il ne siège pas. Quand vous intercédez, il ne siège pas. Mais quand tu loues, il siège. Il faut louer Dieu. Et c'est cette arme-là qu'il leur donne. Cette arme-là. Donc, sois dans la perfection. Et ensuite, quand ils ont commencé à louer le Seigneur, Dieu n'a pas donné de prière de combat, non. Dieu n'a pas donné d'intercession, non. Dieu n'a pas donné de jeûne, Dieu a donné juste à louer. C'est Dieu qui donne. Louez le Seigneur. Quand ils ont commencé à louer, à pousser des cris de louange, à sonner la trompette, le mur de Jéricho est tombé comme un château de cartes. Le mur-là est tombé. Paul dans la prison avec Silas. Paul aimait l'Éternel et il prêchait Dieu. Une fois, on l'arrête parce qu'il a fait un bienfait. Il a chassé l'esprit de Python qui était dans une femme. Et en ce moment-là, on le fouette, lui et Silas. Ça veut dire que le dos, le sang coulait. C'était des blessures. On met les cèpes aux pieds. Ça veut dire que tu ne marches pas bien. Il y a des bois partout, donc tu marches comme ça. Et on les met dans la prison intérieure. Dans la prison, à l'époque, il y avait des places. Ici, là-bas et à l'intérieur. Donc la prison la plus dure. Mais dans des conditions difficiles et extrêmes. Il est écrit, au milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient et louaient le Seigneur. Ils n'ont pas pleuré, ils ont loué Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont loué Dieu, le mur de la prison s'est écroulé. Que le mur de ta prison s'écroule au nom de Jésus. Par la louange. Il a encore écrit que les liens, les chaînes sont tombées de leur vie. Que les chaînes tombent ce matin au nom de Jésus. Il a encore écrit que les portes sont ouvertes. Que la porte qui est fermée dans ta vie s'ouvre au nom de Jésus. La puissance de la louange. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué,
loué. Loué, loué, Seigneur Jésus.
Loué, loué,
loué.
Le louer comme ça. Est-ce que tu peux être dans la joie ce matin? Parce que le Dieu de grâce est là. Parce que la louange monte comme un parfum de bonne odeur et fait trembler le trône de Dieu. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Et quand ils ont loué Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons lire le chapitre 6, le verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des cris, des grands cris, et la muraille s'écroula. Et le peuple monta dans la ville, et chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Alléluia. Ils s'emparèrent, ils ont pris possession. Dis à ton frère, entre dans ta destinée. Entre dans ta destinée. Prends possession. Ils ont pris possession. Parce que le Dieu de gloire était là. Il combattait pour eux. C'est fini. Ce matin, prends possession de ta destinée au nom de Jésus. Parce qu'il est avec toi. Il est avec toi. Ce Dieu est bon. Il t'aime. Il veut que tu sois là où il veut que tu sois. Maintenant, écoutez bien. Quand ils sont entrés, les nations qui étaient autour d'eux ont compris que l'Éternel, Yahvé, est Dieu. Et que leurs idoles ne sont pas des dieux. Quand tu vas entrer dans ta destinée, il faut que les gens comprennent à travers ton témoignage que Jésus est Seigneur, que Jésus règne, que Jésus règne, que Jésus règne. Il règne. C'est pour ça que j'ai dit au départ, ne te glorifie pas, sois humble, laisse Dieu témoigner en toi. L'humilité précède la gloire. Quand tu es humble, il te lève encore d'habitude.
il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ma destinée dépend de lui, il agira. Lève-toi, on chante ensemble.
Il agira.
Ma destinée dépend de lui, il agira. Il agit, ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ma bénédiction dépend de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ah, mon voyage dépend de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Mon mariage dépend de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ton travail dépend de lui, il agira. Il agit. Ma vie est entre ses mains, il agira. Entre ses mains, il agira. Cette église dépend de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ta vie dépend de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous te bénissons, Dieu de gloire et de grâce. Merci encore pour ta présence ce matin. Merci parce que nous entrons dans notre destinée. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la destinée du Saint-Esprit soient notre partage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.